Merci Marianne, merci Ketia pour ce moment de louange. J'espère que vous aurez pu les uns les autres vous sentir renouvelés et goûter à la présence de Dieu, et que ça aura aussi ouvert votre cœur pour recevoir la parole que nous allons partager dès maintenant par rapport à ce temps de Pâques qui est si particulier. Ce que nous vivons est assez inédit, nous n'avons jamais vécu cela auparavant. Cette pandémie est un véritable tsunami, ça vient nous bouleverser dans tout ce que nous connaissons habituellement, dans tous nos repères habituels, dans notre rythme, le rythme dans lequel nous étions jusqu'avant ce confinement. Ça nous laisse plein d'incertitudes sur ce qui va se passer par la suite. Donc c'est tout un bouleversement qui fait qu'on peut se poser cette question, mais comment continuer au milieu de tout cela? Comment continuer aussi après? Comment continuer? C'est le titre que je donne à ce message. Et comment continuer? C'est sans doute une question que les disciples ont dû se poser quand ils ont vécu cette dernière Pâque avec Jésus et qu'ils ont vécu sa mort. Et je voudrais avec vous dans l'évangile de Luc, le passage qui parle de cela. Je vais faire une lecture dans la Bible juive complète à partir du verset 53 dans le chapitre 23, donc chapitre 23, verset 53, jusqu'au chapitre 24, au verset 12. Ce qui se passe juste avant, nous voyons Joseph d'Arimathée, qui est un responsable juif, une autorité religieuse, venir demander aux autorités romaines de pouvoir récupérer le corps de Jésus, et donc il le descend de la croix. Il le descendit, l'enveloppa dans un tissu de lin et le plaça dans un tombeau qui avait été creusé dans le roc, dans lequel personne n'avait jamais été placé. C'était le jour de la préparation, et le Shabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues depuis la Galilée avec Yeshua, donc avec Jésus, suivaient. Elles virent le tombeau, et comment son corps y fut déposé. Puis elles s'en retournèrent pour préparer les aromates et les huiles parfumées. Le jour du Shabbat, les femmes se reposèrent conformément au commandement. Mais, le premier jour de la semaine, très tôt le matin, elles prirent les aromates qu'elles avaient préparées et elles se rendirent au tombeau. Là, elles trouvèrent la pierre roulée à côté du tombeau. Elles entrèrent et découvrirent que le corps du Seigneur Yeshua ne s'y trouvait plus. Elles se tenaient là, ne sachant qu'en penser, quand soudain, deux hommes en habits étincelants se tinrent près d'elles. Saisies de frayeur, elles s'inclinèrent, le visage baissé vers le sol. Les deux hommes leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il a été relevé de la mort. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé quand il était encore dans la Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit exécuté sur un poteau comme un criminel, puis qu'il soit relevé de la mort le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Yeshua. Et à leur retour du tombeau, elles racontèrent tout cela aux onze et à tous les autres. Et là, l'évangéliste liste toutes les femmes qui étaient là, et je reprends la lecture au verset 11. « Mais les émissaires, les apôtres, ne les crurent pas. Ils pensaient même que ce qu'elles racontaient était complètement absurde. Cependant, Képha se leva et courut au tombeau. Se baissant, il n'y vit que les linges, et il s'en revint chez lui, se demandant ce qui avait pu arriver. » Comment continuer face à ce bouleversement de la mort ? C'est peut-être déjà sous cette forme que cette question a pu se poser pour eux. Effectivement, celui en qui elles mettaient tous leurs espoirs, Yeshua, dont elles attendaient qu'il les délivre de l'occupation romaine, celui qui dont elles croyaient qu'il est le Messie, et donc il allait installer un règne d'amour, de paix, de justice dans un monde qui est ravagé par la haine, par la violence, par la maladie. Celui en qui elle mettait tous ses espoirs là est mort et enterré. Et elle se retrouve en train de regarder Joseph d'Arimathée disposer le corps dans le tombeau pour savoir comment elles vont s'en occuper elles-mêmes avec des huiles parfumées, avec des aromates. Elle, finalement, elle s'apprête à faire ce que l'on fait d'habitude quand quelqu'un est décédé. Et avant cela, elles vivent le Shabbat selon le respect de la loi et elles reviennent le lendemain matin. C'est comme si, face à ce bouleversement, le recours c'était de replonger dans ce qu'elles connaissent, dans leurs habitudes. Et souvent, quand nous sommes bouleversés dans nos repères, ça va être notre tendance d'aller vers ce que nous connaissons, d'aller vers retrouver des repères justement habituels. Et donc, c'est ce qu'elles essayent de faire. Et en même temps, elles doivent se poser plein de questions, ces femmes. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi comme ça? Pourquoi il est parti? Toutes ces questions que, sans doute, nous posons quand, par exemple, nous avons perdu un être cher, ce qui est le cas pour beaucoup en ce moment, quand nous avons perdu quelque chose auquel nous tenons et qui donne sens à notre vie. Ça peut être, par exemple, le travail, ça peut être le cas de certains, vu la situation aujourd'hui. Toutes ces questions, nous les posons quand notre monde est bouleversé, quand nos repères sont bouleversés, quand nous sommes face à quelque chose qui évoque la mort, face à un arrêt. Et là, c'est ce que nous vivons aussi avec cette pandémie, un arrêt brutal avec ce confinement. Un arrêt brutal qui peut évoquer la mort. Ce confinement, c'est une sorte d'ensevelissement, comme Jésus a été enseveli, et comme ces femmes, quelque part, sont aussi ensevelies dans cette mort, dans cet abattement, tout en essayant de retrouver de la sécurité, tout en essayant de remettre en place des repères. Voilà l'état dans lequel elles peuvent se trouver, dans lequel nous pouvons nous trouver aussi dans cette situation que nous vivons nous-mêmes. Il y a donc ce bouleversement, et elles sont dans ce repli, et elles vont au tombeau. Et là, il y a quelque chose d'inattendu qui se produit. La pierre a été roulée. Le corps de Yeshua n'est plus là. Alors qu'elles, elles essayaient de remettre en place des choses justement pour se sécuriser. Là, du coup, de nouveau, un nouveau rebondissement. Et donc le texte dit que elles ne savent plus quoi penser, elles ne savent plus quoi faire. Elles sont de nouveau perdues. Elles sont de nouveau perdues, comme peut-être des personnes sont perdues aujourd'hui, des personnes qui se retrouvent seules. On ne sait pas. On voit la vie au jour le jour. Donc c'est vraiment, ça peut être vraiment très déstabilisant. Et là, un nouveau rebondissement. Ça va de rebondissement en rebondissement. Deux hommes en habit étincelant apparaissent. Les autres évangiles nous parlent d'anges. Effectivement, ce sont deux anges. Deux anges qui, devant qui elles sont d'abord effrayées. C'est un phénomène spirituel, c'est une apparition surnaturelle. Et ça se trouve, nous aussi, nous serions effrayés si nous nous trouvions devant. Et en même temps, elles baissent les yeux vers le sol. Dans quelle mesure aussi ça parle de leur de cet abattement dans lequel elles sont, elles regardent vers le sol, ce sol où Yeshua a été enseveli, ce sol qui évoque la mort. Elles ne regardent pas vers le ciel, elles regardent vers la terre où il y a où ce qui est marqué par cette mort. Et il y a la question des anges, cette question: pourquoi recherchez-vous les vivants, le vivant parmi les morts? Pourquoi recherchez-vous le vivant parmi les morts? C'est une question qui va les aider à pouvoir continuer. Pourquoi? Parce que cette question, c'est une question finalement qui concentre toutes les questions qu'on peut se poser sur le sens de la vie, ou qui vient toucher en tout cas au sens de la vie. Au travers de cette question, les anges sont en train de leur demander: mais quel sens vous donnez à tous les événements qui vous arrivent aujourd'hui? Quel sens vous donnez aux réactions que vous pouvez du coup avoir par rapport à tout cela? Et finalement, quel sens vous donnez à la vie elle-même? Vous qui avez côtoyé Jésus, quel sens vous donnez à la vie? Cette pandémie, de la même manière, elle vient poser des questions sur le sens de la vie parce qu'il y a tout ce bouleversement. On peut ne pas se la poser, mais en même temps, de se poser cette question du sens, c'est justement une solution un début de solution pour pouvoir continuer. C'est pour cela que ces anges posent cette question aux femmes. Est-ce que toi, tu accueilles cette question du sens de la vie? Est-ce que tu te poses la question, mais pourquoi tout cela, ça arrive? Pourquoi est-ce que cela arrive? On peut avoir différentes réponses. Et d'ailleurs, la Bible, elle nous parle d'épidémies qui précéderont la fin des temps. En même temps, l'histoire de l'humanité a vécu des épidémies tout au long de son histoire. Mais la Bible nous parle de signes précurseurs avant la fin des temps qui se précipiteront de plus en plus. Nous ne sommes pas dans les temps de la fin, mais nous nous en rapprochons. Mais surtout, la Bible nous parle de qui nous sommes. Elle nous dit que nous ne sommes pas que des êtres physiques, psychologiques, un amas de cellules qui pense et qui a des émotions, mais que nous sommes aussi des êtres spirituels. Que nous sommes des êtres spirituels. Et qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes des êtres spirituels? Ça veut dire que nous sommes responsables devant la vie qui est déposée en nous. Devant la vie que le vivant dépose en nous, ça veut dire que nous sommes responsables de nous-mêmes, responsables les uns des autres, responsables de ce monde qui nous a, dont la gestion nous a été confiée. Et quand nous nous défaussons de cette responsabilité au travers des actes que nous pouvons poser, des actes de méchanceté, des actes de médisance, de quand on critique l'autre en le condamnant, quand on va être dans la haine, dans la violence, quand on va être dans l'égoïsme, dans une recherche de à tout prix de du profit, nous portons atteinte à la vie. Nous portons atteinte à cette vie en nous, nous portons atteinte à la vie chez les autres, nous portons atteinte à la vie dans ce monde. Et tout cela, ça a des conséquences, ça a un impact. Dans quelle mesure ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un impact aussi de nos choix spirituels. Oui, on peut se poser la question de la responsabilité collective, regarder la responsabilité des uns et des autres, des gouvernements, des autorités sanitaires, des gens qui suivent ou pas les règles de confinement, par exemple. Mais est-ce que tu te poses la question de ta responsabilité individuelle au sens spirituel? Au sens que la vie coule en toi. Cette vie, elle a été déposée en toi, en chacun de nous, et nous en sommes responsables. Le vivant dont parlent ces anges, c'est une expression qu'on entend aussi, par exemple, chez les philosophes, chez les scientifiques, chez les écologistes, qui en parlent en tant que l'ensemble de ce qui vit et qui transmet la vie. Mais pour les croyants, pour ceux qui croient que nous avons cette dimension spirituelle, que nous sommes aussi des êtres spirituels, c'est ce vivant, c'est plus que cela. Ce vivant, c'est une personne. Ce vivant, c'est Dieu lui-même. D'ailleurs, qui ne se confond pas avec tout ce qu'il a créé, toute cette création dont nous faisons partie. Mais c'est parce qu'il est le vivant qu'il a créé tout cela et que sa vie coule en nous. Et c'est pour ça que nous sommes animés, c'est pour ça que nous pouvons vivre. Et cela, ça nous laisse une responsabilité. Et quand nous nous retrouverons devant ce vivant, devant Dieu, à notre mort, eh bien, nous aurons à répondre de cette responsabilité. Et en même temps, ce vivant, ce Dieu que la Bible présente, Dieu est absolument bon, il est absolument saint, il est absolument juste. Là où nous pouvons être corrompus, nous ne parvenons pas à ne pas faire le mal, nous ne parvenons pas à faire le bien comme nous voudrions, comme surtout Dieu le voudrait. Du coup, comment faire? Si malgré nos efforts, malgré toute l'énergie que nous pouvons y mettre, nous pouvons satisfaire Dieu, nous pouvons satisfaire ses exigences, satisfaire le vivant. Et heureusement, et c'est ce que rappellent ces anges aux femmes, le message de la Bible nous parle de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est cette bonne nouvelle, c'est que le vivant est relevé d'entre les morts. Le vivant est ressuscité. Avant cela, le vivant est venu en Jésus. Il s'est incarné, il a pris forme humaine. Et c'est le vivant qui était auprès d'elle. Et c'est le vivant qui est ressuscité. et c'est ce vivant qu'elles peuvent accueillir en elles, et c'est pour cela qu'il leur rappelle les paroles de Jésus lui-même qu'elles avaient oubliées, tellement elles étaient enfermées dans la mort et dans leur peur. Ces paroles où il dit « Il faut que le Fils de l'homme, le Messie, soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. » Et cela, ça fait que celui qui accueille par la foi ce vivant qu'est Jésus, c'est plus seulement la vie du vivant qui coule en lui et qui l'anime, c'est carrément la personne du vivant qu'est Jésus, qu'est Dieu, qui vient en toi. Et lorsque nous nous présenterons devant Dieu, si nous avons accueilli le vivant qu'est Jésus, Dieu ne considérera pas avant tout nos actes, bons et mauvais, bien sûr il les considérera, mais il considérera en premier l'accueil que nous avons fait à son Fils, l'accueil que nous avons fait à ce vivant, et la manière dont nous l'avons considéré. Comme ces anges qui rappellent à ces femmes au travers de ce bouleversement, cette vérité du salut, Dieu, au travers de ce que nous vivons, veut nous rappeler aussi cette vérité du salut. Est-ce que tu es prêt à l'entendre? C'est comme si il permettait que nous soyons touchés, comme un médecin qui va inoculer un vaccin, une infime partie de la maladie, pour que le système immunitaire puisse se mobiliser et vaincre la maladie. Et là, notre système immunitaire, c'est Jésus. C'est Jésus qui vient pour pour vaincre cette maladie de la mort éternelle que nous pouvons vivre si nous rejetons le vivant. Alors, est-ce que toi, tu te laisses questionner? Est-ce que tu te laisses questionner comme ces femmes se sont laissées questionner? Et quand les anges leur disent, mais rappelez-vous ce que Jésus vous a dit, ce verbe rappeler, en grec, il est de la même racine que le mot tombeau, qu'on pourrait aussi traduire par mémorial. C'est comme si ces femmes avaient leur attention, leur mémoire, leur souvenir fixé sur la mort, sur ce mémorial, sur ce qui représente la mort, et l'intervention des anges les amène à pouvoir regarder vers le ciel, regarder vers la vie, regarder vers Jésus qui est ressuscité. Toi, dans quelle direction regardes-tu? Est-ce que tu regardes dans la direction de la mort, au travers de tout ce bouleversement que nous vivons? Ou est-ce qu'au contraire, à partir de cela, tu regardes dans la direction de la vie? C'est déjà une première chose pour savoir comment continuer. C'est de pouvoir accueillir ces questions et de pouvoir y répondre aussi. Mais ces femmes ont fait encore plus que cela. Ces femmes ont fait encore plus que cela. Non seulement elles ont levé les yeux, elles se sont levées, elles se sont redressées, mais aussi elles se sont mises en mouvement, elles ont marché. Elles sont allées vers les autres disciples pour leur rappeler ce témoignage de la résurrection de Jésus. Elles se sont appropriées ces paroles que les anges leur ont rappelées. Elles se sont laissées remplir par cette vie, par ces paroles de vie. En fait, elles ont accueilli le vivant qu'est Jésus en elles. Et ça, c'est une vie qui les a complètement transformées. Qui les a complètement transformées malgré l'adversité. Elles se sont levées, elles y sont allées. Malgré leur peur, leur terreur, malgré le drame qu'elles avaient vécu, malgré leurs incertitudes, malgré les résistances qu'elles ont rencontrées. Parce que quand, nous l'avons lu, quand elles ont rencontré d'abord les 11 disciples, ils les ont traités de folles. Mais c'est complètement absurde ce que vous dites, vous délirez. Mais elles ne se sont pas laissées démonter. Et c'est vrai que dans cette situation, nous pouvons rencontrer de l'adversité. Nous rencontrons des difficultés qui pourraient nous faire nous replier sur nos peurs, sur nos craintes, nous replier vers la mort. Il y a des situations qui sont difficiles, il y a des situations tragiques, il y a des personnes qui ont perdu quelqu'un qu'ils aiment, et ils n'ont pas pu lui dire au revoir comme on le fait habituellement, on était entouré de la famille, des amis, où on se soutient les uns les autres dans cet ultime au revoir. Il y a des couples qui se retrouvent confinés alors qu'ils étaient en train de se séparer. Il y a des couples, des familles qui peuvent être dans la violence. Il y a vraiment des situations difficiles. Il y a des personnes qui perdent leur travail, des personnes qui probablement le perdront. Il y a des entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Il y a des difficultés, il y en aura. Mais comment, malgré cette adversité, tu vas continuer, nous allons continuer dans cette recherche du vivant, comme ces femmes l'ont fait? Comment nous allons continuer à marcher dans ce chemin de la résurrection, ce triomphe de la vie sur la mort? Ces femmes, malgré toute cette adversité, c'est parce qu'elles ont accueilli Jésus en elles, qu'elles ont pu traverser cela. Et elles ont été à leur tour une source de vie, car oui, il y a eu la résistance des disciples, des 11 disciples, mais comme elles ne se sont pas laissées démonter, comme elles sont restées accrochées à Jésus, à ce vivant en elles, du coup, la vie de Jésus, la foi qu'elles ont, s'est frayée un chemin jusqu'au cœur de Pierre. Pierre a été touché dans son cœur, il s'est précipité à son tour pour vérifier dans le tombeau, et là, il a vu, quand il a vu les bandelettes à terre, quand il a constaté comment étaient les choses, il a réalisé que Jésus était ressuscité. Il s'est rappelé lui-même les paroles. Pour conclure, je veux vraiment t'encourager à ne pas te laisser arrêter par tout ce bouleversement, tout ce qui pourrait te bouleverser en t'enfermant dans ce qui peut être la mort, en t'enfermant dans tes peurs, en te repliant sur toi. Mais vraiment à accueillir ces questions que tout ce qui se passe aujourd'hui peuvent te poser au plus profond de ton cœur, et aussi à accueillir celui qui est le vivant, qui est ressuscité, Jésus-Christ, à choisir la vie en lui pour que tu puisses être renouvelé, transformé, que tu puisses recevoir la paix, que tu puisses vraiment recevoir cette vie qu'il veut te donner en plénitude pour l'éternité. Je vais terminer par un moment de prière pour remettre nos situations à tous, nous remettre tous par rapport à ce que cette parole peut venir toucher. Alors, sens-toi libre de participer à cette prière, quel que soit ton chemin spirituel, quel que soit là où tu en es. Seigneur, je te remercie pour ce que tu nous as dit à chacun, ce que tu as dit au cœur de chacun aujourd'hui, la manière dont tu viens nous toucher. Et je voudrais déjà, Seigneur, te remettre toutes les personnes qui peuvent être dans la difficulté durant ce temps, toutes les personnes qui peuvent être bouleversées, toutes les personnes qui peuvent être, par exemple, dans le deuil. Si tu es dans le deuil, vraiment, que tu puisses recevoir la consolation, que tu puisses recevoir la paix. Seigneur, merci, merci de prendre soin. Merci de prendre soin des personnes. Merci, je sais que tu es à côté, Seigneur, que tu les accompagnes. Je te remets aussi les situations de couple qui peuvent être dans la difficulté, dans le déchirement, voire dans la violence. Je prie, Seigneur, que là aussi, que tu amènes la paix. Je prie que ce soit l'occasion, finalement, de revoir les choses ensemble différemment. Ou alors, si c'est pas possible, Seigneur, je prie que des personnes qui peuvent être dans la maltraitance puissent trouver l'aide dont elles ont besoin. Je prie vraiment, Seigneur, que tu leur donnes ce souffle de vie pour prendre soin d'elles-mêmes, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour toutes les situations des personnes qui peuvent être dans la crainte, dans la peur de se retrouver dans la précarité, toutes les personnes qui ont pu perdre leur travail, toutes les personnes qui ont une entreprise et qui ont peur de mettre la clé sous la porte, ou qui peut-être devront le faire. Seigneur, je te remets toutes ces situations. Et je prie, Seigneur, que tu donnes la foi là où il y a la crainte, là où il y a la peur, Seigneur. Que tu donnes la foi que nous pouvons rebondir. Que nous pouvons rebondir. Oui, vraiment, Seigneur, je te remercie pour ton œuvre parmi toutes les personnes que nous sommes, Seigneur. Je te remercie aussi de nous ancrer dans la foi en toi. Je te remercie, Seigneur, de faire que nous pouvons recevoir les révélations que tu veux nous donner au travers de tout cela, que toutes les personnes aussi qui sont dans l'Église puissent vraiment se saisir de ce que tu veux leur dire, que nous puissions être réveillés aussi par tout cela, Seigneur, pour être encore plus dans ta vie, au service des uns et des autres, Seigneur. Merci, merci pour ta présence au milieu de nous. Amen. Nous allons prendre le temps du repas du Seigneur, de la Sainte Cène, en partageant le pain et le vin. Le pain, il représente le corps de Jésus qui a été meurtri, roué de coups, qui a été crucifié. Et il est dit que Jésus, dans son corps, dans les blessures de son corps, est venu prendre toutes nos maladies, toutes nos souffrances. Et le vin représente son sang qui a été versé, qui porte sa vie et qui nous donne la victoire sur la mort, qui nous donne la victoire sur le mal. Et quand nous prenons ce pain et ce vin, nous faisons beaucoup de choses, nous nous identifions à Jésus. Nous sommes transformés selon lui. Nous rappelons ce qu'il a fait, son œuvre, à la croix pour nous. Nous rappelons sa résurrection. Et nous rappelons aussi qu'il revient. Alors, je vais passer une diapo avec sur un petit air de guitare. Et pendant ce temps, nous allons tous prendre ce repas. Et puis après, nous nous retrouvons pour de dernières informations. Seigneur, je te remercie pour ton corps que tu as livré à la souffrance et à notre place. Je te remercie pour ton sang qui a coulé à la place que notre sang coule. Seigneur, merci parce que tu as pris ce châtiment de la mort qui nous revient parce que nous ne pouvons pas satisfaire aux exigences de Dieu qui est le vivant, comme toi tu as pu le faire. Et merci Seigneur, parce que c'est ta vie qui coule en nous. Merci mon Dieu de la manière aussi dont tu vas nous relever, ce que tu vas transformer dans nos vies, au travers de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Amen.